Gargantua, chapitre 21. Comment Gargantua fut institué par Ponocrate en telle discipline qu'il ne perdait heure du jour. Quand Ponocrate connut la vicieuse manière de vivre de Gargantua, délibéra de autrement l'instituer en lettres, mais pour les premiers jours le toléra, considérant que nature n'endure point de mutation soudaine sans grande violence. Pour donc mieux son œuvre commencer, supplia un savant médecin de celui temps nommé Séraphin Calobarci, à ce qu'il considéra si possible était remettre Gargantua en meilleure voie, lequel le purgea canoniquement avec hélébore de anticyre, et par ce médicament lui nettoya toute l'altération et perverse habitude du cerveau. Par ce moyen aussi, Ponocrate lui fit oublier tout ce qu'il avait appris sous ses antiques précepteurs, comme faisait Timote à ses disciples qui avaient été instruits sous autres musiciens. Pour mieux se faire, l'introduisait aux compagnies des gens savants qui là étaient, à l'émulation desquels lui crut l'esprit et le désir d'étudier autrement et se faire valoir. Après, en tel train d'étude, le mit qu'il ne perdait heure quelconque du jour. Ainsi, tout son temps consommé en lettres et honnête savoir. S'éveillait donc Gargantua environ 4 heures du matin. Cependant qu'on le frottait, lui était lu quelques pagines de la divine écriture, hautement et clairement, avec prononciation compétente à la matière. Et à ce, était commis un jeune page natif de Baché, nommé Agnanot. Selon le propos et argument de cette leçon, souvente fois s'adonnait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, duquel à la lecture montrait la majesté et jugement merveilleux. Puis s'en allait au lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce qui avait été lu, lui exposant les points plus obscurs et difficiles. Eux retournant, considéraient l'état du ciel, si tel était comme l'avait noté au soir précédent, et quels signes entraient le soleil, ou si la lune pourrissait la journée. Ce fait était habillé, peigné, testonné, accoutré et parfumé, durant lequel temps on lui répétait les leçons du jour d'avant. Lui-même les disait par cœur, et y fondait quelques cas pratiques et concernant l'état humain, lesquels il étendait aucune fois jusque 2 ou 3 heures, mais ordinairement cessait lorsqu'il était du tout habillé. Puis, par 3 bonnes heures lui était faite lecture. Ce fait, hissait hors toujours conférant des propos de la lecture, et se déportait en braque ou dans les prés, et jouait à la balle ou à la paume, galantement s'exerçant les corps, comme ils avaient les âmes auparavant. Tout leur jeu n'était qu'en liberté, car ils laissaient la partie quand leur plaisait, et cessaient ordinairement lorsque suaient parmi le corps où était autrement là. A donc été très bien essuyé et frotté, changé de chemise, et doucement se promenant, aller voir si le dîner était prêt. Là, attendant, récitait clairement et éloquentement quelques sentences retenues de la leçon. Cependant, monsieur l'appétit venait, et par bonne opportunité, s'asseyait à table. Au commencement du repas, était lue quelque histoire plaisante des anciennes prouesses, jusqu'à ce qu'il eût pris son vin. Lors, si bon semblait, on continuait la lecture, ou commençait à diviser joyeusement ensemble, parlant pour les premiers mois de la vertu, propriété, efficace et nature, de tout ce qui leur était servi à table. Du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes, racines, et de l'après, dit-elle. ce que faisant, apprit en peu de temps tous les passages à ce compétent en Pline, Athénéus, Dioscoride, Galin, Porphyrius, Oppianus, Polybius, Héliodorus, Aristotèle, Aelianus et autres. Il se propos tenant, faisait souvent, pour plus être assuré, apporter les livres sudits à table. Et si bien et entièrement retint dans sa mémoire les choses dites, que pour lors n'était médecin qui en sut à la moitié tant comme il faisait. Depuis, par après, devisait des leçons lues au matin, et parachevant leur repas par quelques confections de cotonia, s'écurait les dents avec un trou de lentis, se lavait les mains et les yeux de belle eau fraîche, et rendait grâce à Dieu par quelques beaux cantiques faits à la louange de la munificence et bénignité divine. Ce fait, on apportait des chartes, non pour jouer, mais pour y apprendre mille petites gentillesses et inventions nouvelles, lesquelles toutes hissaient de arithmétique. En ce moyen, entra en affection de hissel science numérale, et tous les jours, après dîner et souper, y passait tant, aussi plaisantement qu'il saoulait au dé ou aux chartes. A-t-on su d'hissel et théorique et pratique, si bien que Tunstall anglois, qui en avait amplement écrit, confessa que vraiment, en comparaison de lui, il n'y entendait que le haut allemand. Et non seulement d'hissel, mais des autres sciences mathématiques, comme géométrie, astronomie et musique. Car, attendant la concoction et digestion de son paste, il faisait mille joyeux instruments et figures géométriques, et de même pratiquait les canons astronomiques. Après, ses bodhisattes à chanter musicalement à 4 et 5 parties, ou sur un thème à plaisir de gorge. Et au regard des instruments de musique, il apprit à jouer du luth et l'épinette, de la harpe, de la flûte de Allemand et à 9 trous, de la viole et de la sacque-boute. Cette heure ainsi employée, la digestion parachevée, se purgeait des excréments naturels. Puis se remettait à son étude principale par 3 heures ou davantage, tant à répéter la lecture matutinale qu'à poursuivre le livre entrepris, qu'aussi à écrire et bien traire et former les antiques et romaines lettres. Ce fait, y soit hors leur hôtel avec eux un gentilhomme de Touraine nommé l'écuyer gymnaste, lequel lui montrait l'art de chevalerie. Changeant donc de vêtements, monté sur un coursier, sur un roussin, sur un genet, sur un cheval léger, et lui donnait 100 carrières, le faisait voltiger en l'air, franchir le fossé, sauter le palis, court tourner en un cercle, tant à Dex comme à Sénestre. Là, rompait non point la lance, car c'est la plus grande réserve du monde, dire l'est rompu 10 lances en tournoi ou en bataille. Un charpentier le fera bien. Mais louable gloire est d'une lance avoir rompu 10 de ses ennemis. De sa lance, donc acérée, vers des roides, rompait un huis, enfonçait un arnois, acculait une arbre, enclavait un anneau, enlevait une selle d'armes, un aubert, un gantelet. Le tout faisait armé de pied en cap. Au regard de fanfarer et faire les petits popismes sur un cheval, nul ne le fit mieux que lui. Le voltigeur de Ferrare n'était qu'un singe en comparaison. Singulièrement, était appris à sauter hâtivement d'un cheval sur l'autre sans prendre terre. Et nommait-on ses chevaux des ultroires. Et de chacun côté, la lance au poing montait sans étrière, et sans bride guider le cheval à son plaisir, car telles choses servent à discipline militaire. Un autre jour s'exerçait à la hache, laquelle tant bien coulait, tant vertement de tout pic resserrait, tant souplement avalait en taille ronde, qu'il fut passé chevalier d'armes en campagne et en tous essais. puis branlait la pique, saquait de l'épée à deux mains, de l'épée bâtarde, de l'espagnole, de la dague et du poignard, armée, non armée, au bouclé, à la cape, à la rondelle. Courait le cerf, le chevreuil, le daim, le sanglier, le livre, la perdrix, le faisan, l'otarde. Jouer à la grosse balle, et la faisait bondir en l'air autant du pied que du poing. Luttait, courait, sautait, non à trois pas un saut, non à cloche-pied, non au saut d'allemand. Car, disait Gymnase, tels sauts sont inutiles, et de nul bien en guerre. Mais d'un saut perçait un fossé, volait sur une haie, montait six pas en contre une muraille, et rampait en cette façon à une fenêtre de la hauteur d'une lance. Nageait en profonde eau, à l'endroit, à l'envers, de côté, de tout le corps, des seuls pieds, une main en l'air, en laquelle, tenant un livre, transpassait toute la rivière de Loire à Montsoreau, sans le mouiller, et tirant par les dents son manteau, comme faisait Jules César. Puis d'une main, entrait en grande force en un bateau. Dit celui, se jetait de rechef en l'eau, la tête la première, sendait le parfond, creusait les rochers et gouffres de la fosse de Savigny. Puis, dit celui bateau, il tournait, gouvernait, menait hâtivement, lentement, à fil d'eau, contre-cours, le retenait en pleine écluse, d'une main le guidait, de l'autre s'escrimait avec un grand aviron, tendait le vel, montait au mât après les traits, courait sur les brancards, adjustait la boussole, contreventait les boulines, bandait le gouvernail. Hissant de l'eau roidement, montait en contre la montagne, et dévalait aussi franchement, gravé aux arbres comme un chat, sautait de l'une en l'autre comme un écureuil, abattait les gros rameaux comme un autre milot. Avec deux poignards acérés et deux poinçons éprouvés, montait au haut d'une maison comme un rat, descendait puis du haut en bas en telle composition des membres que la chute n'était aucunement grévée. Jetait le dard, la barre, la pierre, la javeline, les pieux, la hallebarde, enfonçait l'arc, bandait les reins, les fortes arbalètes de passe, visait de l'arquebouse à l'œil, affetait le canon, tirait à la butte, au papaguet, du bas en mont, d'amont en val, d'avant, de côté et en arrière, comme les partes. L'on lui attachait un câble en quelque haute tour pendant en terre. Paris, celui, avec deux mains, montait, puis dévalait si roidement et si assurément que plus ne pourriez parmi un pré bien égalé. L'on lui mettait une grosse perche, appuyée à deux arbres, Aïssel se pendait par les mains, et Dicel allait et venait, sans des pieds à rien toucher, que à grande course on ne l'eût pu à concevoir. Et pour s'exercer le thorax et poumons, criait comme tous les diables. Je l'ouïs une fois, appelant Eudemont depuis la porte de Bessé, jusqu'à la fontaine de Marsay. Stentor n'eut onque telle voix à la bataille de Troie. Et pour garantir les nerfs, on lui avait fait deux grosses saumones de plomb, chacune du poids de 8700 quintaux, lesquelles il nommait haltères. Hissel prenait de terre en chacune main et les élevait en l'air au-dessus de la tête, et les tenait ainsi, sans soi remuer, trois quarts d'heure et davantage, qu'était une force inimitable. Jouait au bar avec les plus forts, et quand le point advenait, se tenait sur ses pieds tant roidement qu'il s'abandonnait au plus fort en cas qu'il le fisse mouvoir de sa place, comme jadis faisait Milo, à l'imitation duquel, aussi, tenait une pomme de grenade en sa main et la donnait à qui lui pourrait ôter. Le temps ainsi employé, lui frotté, nettoyé et rafraîchi d'habillement, tout doucement s'en retournait et, passant à quelque pré ou autre lieu herbeux, visitait les arbres et plantes, les conférant avec les livres des anciens qui en ont écrit, comme Théophraste, Dioscoride, Marinus, Pline, Nicandère, Macère et Galant. et en emportaient leurs pleines mains au logis, desquels avait la charge un jeune page nommé Rhizotome. Ensemble, des marochons, des pioches, serfouettes, bêches, tranches et autres instruments requis à bien arboriser. Eux arrivaient au logis, cependant qu'on apprêtait le souper, répétaient quelques passages de ce qu'avait été lu et s'asseyaient à table. Notez ici que son dîner était sobre et frugal, car tant seulement mangeait pour réfréner les abois de l'estomac, mais le souper était copieux et large, car tant en prenait que lui était de besoin à soi entretenir et nourrir. Ce que est la vraie dicte prescrite par l'art de bonne et sûre médecine, quoiqu'un tas de badauds médecins, hercelés en l'officine des Arabes, conseillent le contraire. Durant et celui repas, était continuée la leçon du dîner, tant que bon semblait. Les restes étaient consommés en bons propos, tous lettrés et utiles. Après grâce rendue, s'adonnait à chanter musicalement, à jouer d'instruments harmonieux ou de si petits passe-temps qu'on fait aux chartes, aux dés et gobelets, et là demeurait faisant grand chair et s'ébaudissant aucune fois jusqu'à l'heure de dormir. Quelquefois allait visiter les compagnies des gens lettrés ou des gens qui eussent vu pays étrangers. En pleine nuit, devant que soient retirés, allait en lieu de leur logis le plus découvert voir la face du ciel, et là notait les comètes, si aucune était, les figures, situations, aspects, oppositions et conjonctions des astres. Puis, avec son précepteur, récapitulait brièvement tout ce qu'il avait lu, vu, su, fait et entendu au cours de toute la journée. Si priaient Dieu le Créateur en l'adorant et ratifiant leur foi envers lui et le glorifiant de sa bonté immense et lui rendant grâce de tout le temps passé, se recommandaient à sa divine bonté pour tout l'avenir. Ce fait entrait en leur repos.